Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes, au psaume 57. Psaume 57. Et voici la parole de Dieu. Au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie, ô Dieu très haut, ô Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth, ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Et c'est la parole de Dieu. La plupart des psaumes de David dans ce deuxième livre des psaumes partagent un thème qui est commun, qui est celui de la prière pour la délivrance des oppresseurs. Et dans le psaume 57, David continue d'être menacé par des ennemis qui sont impitoyables. Mais ici, son cœur est affermi dans une espérance, dans une confiance qu'il sera délivré. La préoccupation de ce psaume 57 n'est pas seulement que Dieu allait sauver David, mais que la gloire de Dieu serait exaltée en sauvant David de l'affliction. Le titre qui est donné à ce psaume nous dit que David a écrit ce chant après avoir fui Saül et qu'il était dans la caverne. David a cherché refuge dans les cavernes à deux occasions. Une fois, c'était à Adullam et l'autre à En-Gedi. Et son refuge dans la caverne d'Adullam a eu lieu immédiatement après cette fuite insensée de David vers la ville de Gath, qu'on a vue la dernière fois, quand il s'est cherché refuge d'abord dans le pays des Philistins, puis il s'est rendu compte de son erreur. Le psaume 56, qu'on a vu la dernière fois, rapporte cette prière de peur, mais aussi de foi de David après son évasion de Gath. Et il est probable que ce psaume 57 a été écrit dans la phase suivante, dans la fuite de David, quand il a trouvé refuge dans la caverne d'Adullam. David n'était plus seul, son père, son frère l'avaient rejoint, ainsi que 400 hommes qui avaient fui le roi Saül et qui voulaient suivre David. On lit ce récit en 1 Samuel 22. Ça a été un temps difficile, un temps amer, rempli de difficultés, mais c'est aussi un temps de ressaisissement spirituel, comme le soulignent les lignes de ce psaume. Mais quelle est la différence émotionnelle entre les hauteurs que nous avons dans ce psaume 57 et la lutte avec la peur que nous avons vue la dernière fois dans le psaume 56? Et la différence, c'est que alors que David a cherché refuge à Gath, il est maintenant venu dans la caverne d'Adullam, non pas pour simplement se réfugier dans les cavernes, mais plutôt pour chercher un refuge en Dieu. Et dans la mesure où les cavernes protégeaient David, elles étaient un symbole pour lui de la sécurité qu'il trouvait réellement dans le Seigneur. Si David n'avait pas écrit les lignes de ce psaume 57, il aurait pu écrire des lignes d'un cantique que l'on chante de temps en temps, qui commence ainsi: « Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, ô mon roi. » Le psaume 57 se divise en deux moitiés, et chaque moitié se termine par un refrain qui appelle à la gloire de Dieu. La première moitié donc va des versets 2 au verset 6. Elle présente cette prière d'une foi confiante. Et c'est le premier point. La prière d'une foi confiante. Comme dans beaucoup d'autres psaumes, David commence ce psaume 57 par un appel à la miséricorde de Dieu. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. » Et le ton confiant que l'on voit ici peut être vu en contraste avec les premières lignes du psaume 56. Dans le psaume 56, David a crié pour l'aide de Dieu en disant « Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. » Ici, dans le psaume 57, David commence et dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. » David a appris la leçon du psaume 56. Il l'applique maintenant. Le refrain du psaume 56 disait, verset 12, « Je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ?» Mais ici, dans le psaume 57, l'esprit de David n'est plus fixé sur la violence de l'homme. Son esprit est fixé sur le salut qui vient de Dieu. Le camp de David est peut-être caché dans les cavernes d'Adullam, mais son âme est nichée dans le refuge qui est Dieu lui-même. Et Dieu, et de cette façon, David nous montre où trouver le réconfort dans nos afflictions. Quand l'homme nous hait, quand l'homme nous fait des reproches, quand l'homme est cruel envers nous, tournons-nous, réfugions-nous en celui qui est notre refuge parfait, en l'Éternel lui-même. Et pour exprimer cette sécurité que David ressent sous la garde de Dieu, il utilise cette image vivante qu'il est à l'abri à l'ombre de tes ailes. Certains ici pensent que David fait référence aux chérubins en or qui se tenaient sur l'Arche de l'Alliance. Et si c'était l'idée de David, il voudrait dire qu'il est en se confiant en Dieu, il est aussi en sécurité que s'il était à l'abri dans le lieu très saint du Temple. Mais le problème avec cette interprétation, c'est que David ne parle pas des ailes des anges, des chérubins, mais il prie au sujet de tes ailes, des ailes de Dieu. Et la Bible parle souvent du soin que Dieu apporte en des termes qui utilisent cette image, l'image d'une mère poule qui abrite ses poussins sous ses ailes. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a utilisé cette image. Rappelez-vous, en Luc 13, verset 34, « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes ? Et vous ne l'avez pas voulu. » Cette expression de rassembler sous les ailes, ou être à l'abri de tes ailes, ou à l'ombre de tes ailes, on la retrouve dans quatre autres psaumes, psaume 17, 36, 61 et 63. Mais sous une autre forme, dans le psaume 91, on a cette même idée, où il est dit « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes ». Cette image que David utilise est très instructive, parce que non seulement les poussins sont gardés en sécurité sous les ailes de leur mère, mais ils sont réconfortés, dans le sens qu'ils ne sont autorisés à ne voir que la présence rassurante de leur mère. Et Dieu nous appelle à nous abriter en lui, à nous réfugier en lui, en détournant notre esprit des dangers, des difficultés, en nous tournant vers ses attributs glorieux qui nous assurent le salut, qui nous assurent sa protection, la protection de tous ceux qui se confient en lui. Comme David dans le psaume 57, nous, en tant que croyants, nous pouvons recevoir cette grande paix dans les épreuves quand on réalise que les ailes de la protection divine couvrent tous ceux qui se reposent en Dieu. Et dans le verset 3, David va changer le prisme de sa foi en s'exclamant « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur ». Le titre « très haut » bien sûr fait référence à Dieu comme étant le souverain du ciel et de la terre. Et dans la deuxième partie du verset, le Dieu qui agit en ma faveur, le texte hébreu dit littéralement « Dieu accomplit pour moi ». L'accent ne repose pas sur quelque chose de spécifique que Dieu a fait, mais sur le fait qu'en tant que Dieu très haut, souverain sur toute chose, il est capable de réaliser tout ce dont David a besoin. Dans le psaume 91, versets 9 et 10, nous avons ceci, « Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Et dans le verset 4 de ce psaume 57, David continue, il attend, il dit, « Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. » Le Seigneur des cieux, le Très-Haut, combine le pouvoir tout-puissant avec l'amour et la fidélité qui font partie de cette alliance de grâce, de sorte que tous ceux qui sont en lui sont soutenus au jour des difficultés. Et David va conclure la première strophe en juxtaposant la violence qui est dirigée contre lui avec la paix qu'il a trouvée en Dieu. Verset 5, « Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches et dont la langue est un glaive tranchant. » David, bien sûr, a non seulement cru, mais David sait, il connaît, il a fait l'expérience de la dépravation totale. Il est entouré d'hommes qui rôdaient comme des lions, qui le menaçaient comme des monstres cracheurs de feu, dont le discours était un instrument de calomnie, de conspiration au meurtre. Et on vit aujourd'hui parmi la même race humaine, parmi des gens qui ont tué le Seigneur Jésus-Christ quand il vivait sur la terre et qui le tueraient à nouveau s'il le pouvait. Mais David remarque que même au milieu d'une société qui exulte dans le mal, il est capable de se coucher en paix. Comment David peut-il posséder cette paix? La réponse est qu'il se sait en sécurité, entre les mains d'un Dieu qui aime, d'un Dieu qui est fidèle, d'un Dieu qui est tout-puissant. Il est comme un poussin qui est abrité sous les ailes et sous les ailes omnipotentes. David va élever son cœur. Il sait que le Dieu très haut entend ses prières, qu'il obtiendra de l'aide. David, bien sûr, a précédé Daniel, qui a, rappelez-vous, eu confiance en Dieu quand il était dans la fosse au lion. Il savait que les bêtes ne pouvaient pas ouvrir leur bouche sans la permission du Seigneur. Et si David avait connu les paroles de Daniel, que Daniel a prononcées au roi de Perse, David aurait pu les utiliser pour s'adresser au roi Saül. « Mon Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. » Mais comme David, comme Daniel et comme tant d'autres, on peut être confiant de la même délivrance de Dieu, confiant en son amour inébranlable, confiant en sa fidélité pour sauver tous ceux qui font appel à lui. La prière d'une foi confiante. Deuxième point, la louange d'un cœur affermi. David a regardé à Dieu pour trouver un abri, il a loué la paix dont il a fait l'expérience. Et dans la deuxième partie du psaume, David regarde en arrière et il explique la raison de cette paix, la raison de cette tranquillité dans son cœur. Dans le verset 5, il parle de s'allonger en paix parmi les lions, parmi les bêtes enflammées. Et dans le verset 7, il explique que cette paix vient du fait de savoir que les méchants ne feront finalement du mal qu'à eux-mêmes. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Dans un épisode où David était dans l'autre caverne, la caverne d'En-Gedi, Saül est littéralement tombé dans son propre piège. En 1 Samuel 24, nous avons ce récit, comment les forces armées de Saül cherchaient David. Et Saül est entré dans la grotte où se cachaient David et ses hommes. Saül avait tendu un piège à David, comme un chasseur qui va attraper une colombe, mais c'est Saül qui s'est exposé. David aurait pu facilement tuer Saül. Et au lieu de cela, il s'approche de Saül et lui coupe un coin de son vêtement. Et quand Saül sort de la caverne, David se tient et montre le fragment de tissu pour prouver sa loyauté, pour prouver son innocence à ceux qui cherchaient à le faire mourir. Et de cette façon, Saül est tombé dans la fosse même qu'il avait creusée pour David, nous rappelant combien il est dangereux d'opposer nos volontés à celles de Dieu. Puisque ce monde est gouverné par un Dieu qui est juste, ceux qui complotent le mal ne feront finalement du mal qu'à eux-mêmes. Et cette vérité explique pourquoi les chrétiens ne devraient pas être renversés par la peur des méchants. Charles Spurgeon, dans son commentaire, écrit que le mal est un fleuve qui, un jour, revient à sa source. Un exemple dans l'histoire française, l'expérience de Robespierre, qui a commencé le règne de la terreur pendant la Révolution française pour contrôler ses ennemis politiques très rapidement. Robespierre faisait couper la tête à ses amis en les faisant passer par la guillotine. Mais le règne de la terreur a finalement pris fin quand Robespierre lui-même a été arrêté et sa propre tête est tombée par cette terrible machine. Mais un exemple encore plus notable a été le renversement du diable quand il a cherché à détruire le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Satan pensait obtenir un triomphe spirituel dans la mort du Seigneur Jésus, mais sa conspiration a plutôt détruit son propre royaume, parce que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ a aboli la peine du péché pour son peuple. Et quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans la gloire, tout le mal sera mis de côté et tout le mal sera jugé. Ceux qui se sont moqués de son évangile crieront en vain pour être à l'abri de la colère de l'agneau. Apocalypse 6. Et c'est armé de cette compréhension de la fin du mal que David va au cœur même de son psaume au verset 8. Dans la première strophe, David s'est caché dans l'ombre de la protection de Dieu et il explique maintenant la force qu'il a acquise dans ce refuge. Verset 8, « Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. » L'importance de cette exclamation est soulignée par la répétition. Dans l'hébreu, quand on répète quelque chose, on veut souligner l'importance de cette réalité. Et voilà la clé de toute la position de David dans ce psaume 57. Voilà la clé de sa joie confiante au milieu de la difficulté. « Mon cœur est affermi, ô Dieu. » Mon cœur est affermi. Et avec ces mots, David déclare que les vérités de Dieu dans son esprit lui ont donné le contrôle sur les émotions turbulentes de son cœur. En se cachant en Dieu, en voyant la grandeur de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu, David sait que la calamité qui se déroule autour de lui ne provoquera pas sa chute. Ses mains ne tremblent plus. Elles sont levées dans une louange reconnaissante. Ses lèvres ne bégayent pas dans la peur. Elles témoignent de la miséricorde de Dieu. David ne se cache pas simplement dans une caverne. David se cache en Dieu. Il se cache en l'Éternel. Son cœur est affermi et son cœur triomphe de la tempête qui fait rage à l'extérieur. Et selon David, la clé pour endurer les épreuves de la vie, c'est d'être affermi dans la foi quand nous cherchons un refuge en Dieu. Et c'est pour cela que les chrétiens ont besoin de grandir en maturité, de grandir en stabilité. Le croyant a besoin de savoir ce qu'il croit et pourquoi il le croit. Que pouvons-nous attendre de Dieu? Comment pouvons-nous entrer dans une relation juste avec lui? Que pouvons-nous savoir sur la vie et la mort, sur le ciel, sur l'enfer? Ces réponses à ces questions vont renforcer la colonne vertébrale de notre foi. Et c'est sur ces réponses que nous nous appuyons dans les moments difficiles. Notre stabilité au milieu des épreuves dépend de notre compréhension de la saine doctrine. Et le psaume 57 montre l'urgence pour chaque croyant d'être ancré dans l'enseignement biblique, en particulier en ce qui concerne les questions centrales telles que les attributs de Dieu, l'évangile du salut, la personne, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, l'alliance d'amour et de grâce, le ministère de l'Esprit-Saint. L'auteur de la lettre aux Hébreux fait valoir l'importance d'une telle maturité doctrinale. Vous rappelez sans doute de ce passage, il reproche à ses lecteurs que même s'ils ont mûri pour enseigner les autres, il dit « Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu ». Il devait aller au-delà de la consommation de lait, de l'aliment de base, pour commencer à manger de la viande. Hébreux 5, versets 11 à 14. Un commentateur déplore cette situation dans l'Église dont beaucoup ne sont pas affermis, n'ont pas un cœur qui est affermi en Dieu. Et il écrit « L'un des signes les plus sombres chez certains » qui font profession de foi, et le manque de stabilité. Leur cœur n'est pas figé, leurs principes ne sont pas établis, ils ne sont pas ancrés. C'est peut-être dû à l'ignorance de la doctrine des Écritures, à la légèreté naturelle de l'esprit, aux mauvaises habitudes longtemps permises, à la faiblesse ou au manque de grâce. Dans tous les cas, l'instabilité est un mauvais signe. Le psaume 57 montre qu'après avoir cru dans le Seigneur Jésus-Christ, notre besoin est de pouvoir dire avec David, « Mon cœur est affermi, ô Dieu. » C'est pour ça que nous avons besoin de participer à la vie de l'Église, de pas seulement de tomber dans une routine, mais d'ouvrir notre esprit à l'enseignement de la parole de Dieu, de demander au Seigneur de poser un fondement de vérité dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on doit aussi étudier la parole sur le plan personnel, de tenir la seule ancre qui empêche le navire de notre foi d'être ballotté par la tempête. On doit chercher des convictions dans la parole, des principes sur la façon dont on doit vivre dans ce monde violent et impie. Le premier psaume, le psaume 1, appelle l'homme heureux. Celui qui non seulement ouvre les Écritures, mais qui se réjouit de la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Il deviendra comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le psaume 57 nous appelle à cette stabilité spirituelle. Notre cœur est-il ancré dans le Seigneur? Notre vie est-elle fondée sur des principes, sur des convictions, sur des principes de foi? Ou est-ce que nous sommes simplement en train d'exécuter une routine qui ne donne pas de force à notre vie, si notre cœur n'est pas affermi, alors nous avons construit une maison sur le sable. Dans le psaume 57, mais aussi dans cet enseignement du Seigneur Jésus-Christ, l'affermissement de notre cœur est mis à l'épreuve. Et il est révélé dans notre réponse, par notre réponse aux épreuves. Comment allons-nous réagir quand le marché financier va s'effondrer, qu'il va anéantir notre richesse? Quand un médecin nous appelle pour nous faire part de ses préoccupations au sujet d'une maladie mortelle, ou quand la chaîne d'information parle de convulsions qui mettent notre société en danger, comment allons-nous réagir? Si nous avons fondé, si nous sommes affermis dans le Seigneur et dans sa parole, la tempête peut venir, la maison, elle, ne bougera pas. Ceux qui ne sont pas affermis dans la vérité et dans la parole de Dieu et dans le Seigneur Jésus-Christ lui-même, sont comme la paille que le vent dissipe. Alors soyons comme David, qui peut louer Dieu au milieu de cette tempête, parce que son cœur est affermi. La prière d'une foi confiante, la louange d'un cœur affermi, troisième point, le plaidoyer pour que la gloire de Dieu soit exaltée. Si le verset 8 exprime le cœur du psaume 57, les versets qui suivent expriment le désir de ce cœur. David se cache dans le Seigneur, il est affermi dans la foi à l'ombre, sous l'abri des ailes de Dieu. Et par conséquent, David ne désire non seulement la sécurité pour lui-même, mais surtout que sa délivrance apporte la gloire à Dieu. Tout d'abord, David veut que sa propre vie loue le Seigneur. « Je chanterai », versets 8 et 9, « je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. » Au début du verset 9, « Réveille-toi, mon âme », dans l'original, c'est « Réveille-toi, ma gloire ». Il semble que David s'adresse à sa langue comme sa gloire, parce que c'est avec la langue qu'il entend témoigner de la gloire de Dieu. Et avec sa langue, David invoque tous ses autres talents. David, on le sait, était un musicien particulièrement accompli. Alors il appelle la musique de son luth, de sa harpe, pour aller à la rencontre du soleil levant. « Je réveillerai l'aurore » avec la louange au Seigneur. Et nous possédons aujourd'hui une grande variété de dons spirituels. Chacun de nous devrait offrir à Dieu non seulement nos chants et nos louanges, mais aussi les services que nous pouvons faire, que ce soit nous occuper des jeunes, visiter des malades, préparer tout simplement la salle de rencontre, ou la prédication, ou soutenir une œuvre. Tout cela compte réellement. Quand c'est offert avec gratitude pour la gloire de Dieu. « Réveillez-vous, » dit David. Voilà que le commandement que le croyant reconnaissant donne à toutes les ressources que Dieu a données pour que nous puissions les utiliser au service de Dieu et à la louange de son nom. La preuve de l'affermissement du cœur de David, c'est l'esprit reconnaissant qui veut louer Dieu, même au milieu de la difficulté. On peut se demander, mais comment saurais-je que mon cœur est affermi dans le Seigneur? Le psaume 57 répond que le croyant qui est affermi est reconnaissant à Dieu pour toutes ses bénédictions, même au milieu des tempêtes de la vie. Le croyant affermi désire principalement la gloire de Dieu en toutes choses. David a exprimé les mêmes priorités dans le psaume 16, versets 8 et 9. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Mais David va plus loin. Il a désiré que Dieu soit glorifié dans sa propre vie, mais il désire que la gloire de Dieu soit exaltée dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et on peut voir ce lien quand l'apôtre Paul cite le verset 9, ou quand il fait allusion dans une déclaration qui est pratiquement identique à ce verset. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 15, versets 7 à 8, l'apôtre Paul affirme que le Seigneur Jésus-Christ a apporté l'évangile aux païens pour accomplir le désir de l'Ancien Testament de voir la gloire de Dieu dans le monde. Mais où l'Ancien Testament exprime-t-il un tel zèle pour la diffusion de l'évangile? Et l'apôtre Paul répond en dirigeant les regards vers les psaumes, où David supplie que Dieu soit loué non seulement dans la caverne où il se cache, nous-mêmes dans tout Israël, mais dans le monde entier. Psaume 57, verset 10, « Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. » Romains 15, verset 9 dit, « Les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Ce désir de la louange universelle de Dieu a atteint au-delà de la vie même de David. Il s'étend au ministère du Seigneur Jésus-Christ par l'Évangile. Le Seigneur Jésus-Christ s'est avéré être un vrai fils de David en désirant que Dieu soit glorifié au milieu des épreuves. À la veille de son arrestation, de sa crucifixion, le Seigneur Jésus-Christ a prié son Père que le Fils te glorifie. Jean 17, verset 1. La parole de Dieu rapporte que le Seigneur Jésus-Christ a affronté les terreurs de la croix en se réfugiant dans l'amour, dans la fidélité de son Père. Son cœur était affermi en Dieu. De cette façon, le désir de David, dans le verset 10, pour la gloire de Dieu, a parfaitement été réalisé dans la résurrection et l'exaltation de Jésus-Christ, quand le désir de l'Ancien Testament pour le Messie a été accompli. Cela à la louange de l'amour et de la fidélité inébranlable de Dieu. Quand David exhorte la bonté de Dieu qui atteint jusqu'aux cieux, verset 11, il pointe du doigt l'offre de miséricorde qui s'étend encore aujourd'hui à tous par l'Évangile. Quiconque, n'importe où dans le monde, qui vient humblement devant Dieu, par la foi en Jésus-Christ, en confessant ses péchés, en cherchant le refuge que Dieu donne quand le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Quiconque faisant cela peut se joindre à la louange que David désire. David ajoute que la fidélité de Dieu atteint les nus. Par cela, il signifie que tout comme Dieu le délivrerait de la caverne et plus tard Dieu ressusciterait le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, Dieu sera fidèle pour accomplir sa promesse de vie éternelle à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Et cela nous invite à glorifier Dieu en lui demandant de pardonner nos péchés, de nous accueillir en Jésus-Christ, de répondre à nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Que dire pour terminer? Le cœur reconnaissant de David désire que Dieu soit loué dans sa propre vie, qu'il soit loué dans l'évangile de Jésus-Christ. Le refrain qui termine les deux parties de ce psaume exhorte Dieu à afficher sa gloire dans le grand tableau de l'histoire. Versets 6 et verset 12. « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Le commentateur dit que des paroles de prière plus grandes que celles-ci ne sont jamais venues de lèvres humaines. David voit que la cause ultime, le but de son salut, c'est l'exaltation de la gloire de Dieu en toutes choses. Il sait que, comme un fugitif dans la caverne, il réalise que c'est sa condition. en cachant son âme en Dieu. David est ravi de savoir que sa propre délivrance fait partie d'une tapisserie infiniment grande de la gloire de Dieu, qui ne finira jamais. Ce plaidoyer de David pour la gloire de Dieu est essentiellement le même que la vision de l'apôtre Paul pour la gloire de Dieu dans l'Église, quand l'apôtre Paul écrit en Éphésiens chapitre 3 que le but de l'histoire est que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. En d'autres termes, Dieu, en tant que notre louange reconnaissante au milieu des épreuves terrestres, forme un étalage de sa gloire devant les êtres célestes. Et de la même manière, le psaume 57 invite les croyants à comprendre leur vie comme faisant partie d'un grand projet qui couvre toute l'histoire, dans lequel Dieu apporte la gloire à sa grâce pour toujours. Et bien que chacun de nous ne joue qu'un petit rôle, le rôle de chaque croyant est essentiel. Chacun met en scène un drame unique dans lequel Dieu désire que sa gloire soit révélée. On peut être aussi grand que David, ou aussi petit et insignifiant, ou avoir des problèmes sont insignifiants, mais lorsqu'on se cache en Dieu, qu'on demeure en lui, en le louant d'un cœur reconnaissant, on joue un rôle irremplaçable que personne d'autre ne peut jouer à notre place. On joue un rôle dans ce grand et glorieux but pour lequel toute l'histoire existe. Un commentateur a réfléchi à cette vérité quand il voyait les travaux qui avaient lieu sur l'abbaye de Westminster à Londres. Pendant plusieurs années, ce merveilleux bâtiment a été recouvert d'échafaudages pendant que les ouvriers le nettoyaient. Et ce commentateur écrit et dit « On ne pouvait pas voir sa vraie beauté. On était conscient que quelque chose de très important se passait derrière cet échafaudage. Quelque chose d'une beauté majestueuse devait être révélé. » En s'appuyant sur cette idée, le commentateur l'a appliquée à la vie et à l'Église. Il dit « Un jour viendra où Dieu enlèvera l'échafaudage de l'histoire mondiale. Savez-vous à quoi il fera allusion lorsqu'il dira à toute la création « Voici mon chef-d'œuvre » Il montrera du doigt l'Église de Jésus-Christ. Au premier plan, il y aura le Seigneur Jésus lui-même qui viendra et dira « Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés, parfaits en beauté, en sainteté. » Nous devons vivre pour ce jour-là, le jour où Dieu manifestera sa gloire dans son peuple. Et si nous vivons pour ce jour, cela changera notre vie et notre service. David, pendant une période de grande épreuve, a pu chanter « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Il était à l'abri dans la caverne. Il se cachait à l'ombre des ailes du salut de Dieu. Et c'est aussi notre privilège de pouvoir dire la même chose si nous venons d'abord à Dieu par la foi en Jésus-Christ, que nous cherchons notre refuge en Dieu seul au milieu de la tempête, en nous tenant sur le fondement de la parole de Dieu. Nous pouvons nous joindre avec action de grâce avec David et pouvons dire avec lui « Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi, car c'est en toi que je cherche mon refuge. » Que Dieu nous aide à méditer ces choses. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.